Bonjour à tous, ici Troll pour le tout premier format audio d'une critique dans Culture Games. Pourquoi un format audio? Bah parce que j'ai beaucoup de choses à dire, hein. Total War Warhammer c'est quand même gros, et je vais parler de Total War Warhammer 1, Warhammer 2 et Mortal Empire qui est la réunion des deux. Et je vais me sentir obligé de vous parler aussi de Warhammer qui a bercé une grosse partie de ma vie, donc attendez-vous à quelque chose de plutôt long qui passera quand même mieux à l'oral qu'à l'écrit. Nous allons commencer sans plus attendre en parlant de Total War Warhammer 1 pour rester dans la continuité. Donc qu'est-ce qui se passe avec Total War Warhammer 1? Alors effectivement, ça reste un bon Total War. Peut-être qu'il n'y a pas autant d'idées qui sont allées aussi loin que dans d'autres Total War, mais malgré tout, il fallait adapter tout ce système de jeu existant avec un passif qui commence à être plutôt pas mal, hein, parce qu'on n'est pas au deuxième ou troisième opus d'une série, on commence à être sur une licence qui est beaucoup plus fournie actuellement, et adapter un univers qui a plus de 25 ans d'existence avec certains aficionados qui peuvent être un petit peu pointus et très exigeants. Donc tout d'abord, Total War Warhammer 1 est un bon jeu. Ce qui est déjà pas si mal. Donc c'est un bon Total War, les mécaniques de jeu sont réutilisées correctement et surtout adaptées à l'univers de Warhammer de manière plutôt intelligente. C'est-à-dire que chaque race va se jouer relativement différemment et la manière dont on doit les jouer, c'est pas dont on peut, mais dont on doit, et c'est là où ça a été bien fait, correspond au lore de Warhammer sur cette race-là. Donc si on détaille les quatre races, on se rend compte que c'est assez flagrant. Donc on va commencer par la race que tout le monde connaît, hein, l'Empire. Donc l'Empire, ça reste un énorme bordel politique et ça se voit plutôt pas mal dans le jeu parce que les objectifs en fait, quand on joue l'Empire, sont de réussir à réunifier toutes les parties de l'Empire, hein, chacune détenue par un comte électeur. Donc c'est un énorme bordel diplomatique avec évidemment des armées qui sont pléthoriques parce que pas extrêmement chères à entretenir. Et heureusement qu'on a des armées pléthoriques, parce que sinon, bah, la moindre bataille se terminerait en massacre unilatéral pour la partie d'en face. Donc à ce niveau-là, on se rapproche plutôt pas mal hein, du lore et de ce que c'est censé être, donc des armées immenses avec énormément de pertes, et puis beaucoup d'alliances, beaucoup de méandres politiques pour réussir à avancer en fait dans cette réunification de l'Empire. Donc c'est plutôt pas mal trouvé, plutôt intéressant en fait du coup, parce que ça permet d'avoir un gameplay assez différent, les autres races sont plus autonomes. Même si c'est pas tout à fait vrai, mais elles sont beaucoup moins dépendantes en fait de ces alliances-là, notamment parce qu'elles ont beaucoup moins d'alliés possibles, alors que l'Empire en a énormément. Donc c'est ça qui fait que c'est assez central dans son gameplay. Alors maintenant on va pouvoir parler des principaux antagonistes dans le jeu de l'Empire, ce sont les contes vampires. Donc en fait les contes vampires, eux, vont pouvoir lever toujours leur armée de morts-vivants, ça n'a pas vraiment changé. La spécificité, c'est qu'on n'est pas obligé de créer notre armée au niveau d'une ville. Peut relever des morts-vivants en payant directement, c'est-à-dire que l'argent des contes vampires se révèle être juste de la magie noire. Et donc en utilisant cette magie-là, on est capable de relever des troupes loin de tout notre empire et de faire des percées assez terribles. L'intérêt principal du conte vampire, du coup, est de jouer en faisant des énormes percées et les seules villes qu'ils peuvent réussir à prendre sont les villes détenues par l'empire. Enfin, ce sont les mêmes types de villes en fait que les deux races peuvent se disputer. C'est un petit truc un petit peu particulier, c'est que les contes vampires vont réussir à répondre de la corruption vampirique, à ne pas confondre avec la corruption chaotique, qui fonctionne à peu près de la même manière. Mais la corruption vampirique va permettre de donner aux autres armées une usure quand elles sont sur leur territoire. Et l'usure va faire des pertes, un peu comme l'usure qu'on peut avoir vis-à-vis de différents environnements, le blizzard, le grand froid, le désert. Tout ça va tuer à petit feu toutes les armées qui y restent, et donc l'usure se fait naturellement de la même manière sur tous les territoires détenus par les contes vampires. A l'inverse, un conte vampire qui se retrouve sur un territoire sur lequel il n'y a pas assez de corruption vampirique va subir l'usure. On se retrouve donc avec une mécanique expansionniste qui doit se faire de manière totalement fulgurante via des énormes percées pour permettre après d'avoir des villes qui peuvent répandre la corruption plus facilement, parce que sinon la corruption va se répandre sur les provinces adjacentes pas forcément super vite. Du coup, on garde un aspect horde de morts-vivants qui va vraiment déferler. Et c'est à peu près comme ça qu'il faut comprendre que la race doit être jouée. Ce qui est intéressant ici, sur ce cas de figure, c'est que l'armée est plus proche du lore de Warhammer que de la manière dont elle est jouée via le jeu de plateau. Je m'explique. Le jeu de plateau, au niveau des contes vampires, demande d'être un véritable stratège. Il faut être capable de complètement submerger l'adversaire avec beaucoup d'attaques de flanc, avec beaucoup d'unités très rapides qui vont être capables de submerger l'armée ennemie et de l'empêcher de manœuvrer pour en faire un peu ce qu'on veut. Mais au niveau du lore, on se retrouve avec une nation qui est extrêmement isolationniste, dans l'équivalent de la Transylvanie où personne n'a envie d'aller, qui est extrêmement lugubre, où la mort est souvent la seule récompense du voyageur, mais qui de temps en temps va marcher avec des hordes de morts-vivants complètement infinies pour réussir à reconquérir le reste de l'Empire. Donc à ce niveau-là, le fait de mettre en antagonisme l'Empire et les contre-vampires était une excellente idée. Et le fait de permettre aux vampires de rester complètement isolés de par cette mécanique d'usure qui va réduire un petit peu l'impact de toutes les attaques qu'ils vont subir et de réduire l'attaque que eux vont pouvoir faire avant d'avoir une vraie horde qui va être capable d'aller suffisamment loin pour que l'attaque soit rentable, ce mécanisme est très intéressant et permet à ces deux races d'être très cohérentes en termes de lore et malgré tout de se rapprocher énormément du lore et un petit peu moins des règles du jeu plateau les concernant. Viennent ensuite les orques. Alors pour les orques, c'est assez intéressant. On se rapproche du lore qui veut que les orques sont extrêmement agressifs en cherchant une guerre perpétuelle grâce à un mécanisme d'agressivité. Donc l'agressivité, c'est une barre qui va être propre à chacune des armées que possède le joueur. Chacune de ces armées va devoir gérer sa barre d'agressivité. Si la barre est trop basse, l'armée subit de l'usure, comme on a pu le voir pour les contes vampires, et donc cette usure-là peut se cumuler avec des usures environnementales. Si la barre est suffisamment haute, en fait elle atteint le maximum, une armée full stack apparaît, et donc cette armée-là symbolise une wag. Ça permet de récompenser le joueur qui va jouer de manière très agressive. Et en fait, de toute manière, il n'a pas vraiment le choix. S'il joue pas assez agressif, il va se retrouver avec des malus. S'il joue moyennement agressif dans l'idée, bah il bénéficie pas vraiment de la vraie spécificité des orques et surtout de sa force. Alors que s'il joue extrêmement agressif, et donc de manière risqué, c'est aussi ça qu'il faut comprendre derrière. On se retrouve avec des bonus potentiels, mais bon, il faut jongler avec ce risque-là. Donc c'est assez intéressant dans le sens où, en termes de jeu, à la base, les orques sont une armée qui est extrêmement aléatoire. En termes de mécanique, on se retrouvait notamment avec toute notre armée qui pouvait se taper dessus en lançant un dé pour chacune de nos unités, et sur un 1, l'unité allait taper sur une autre unité, ou tirer dessus, ou se taper dessus toute seule s'il n'y avait personne qui était assez près pour. Donc on retrouve un petit peu ce côté hasardeux, de par le fait qu'on est obligé de prendre des risques pour attaquer, pour éviter que nos armées disparaissent toutes seules comme peau de chagrin. Donc en soi, c'est intelligemment récupérer tout ce concept-là, sans avoir vraiment toute la lourdeur de ce système-là qui pourrait empêcher un joueur de prendre plaisir un petit peu en fait lors des batailles ou tout simplement à penser que son armée n'arrive à rien parce que le côté aléatoire serait beaucoup trop présent. Or, on reste dans un jeu stratégie, donc le parti pris n'est pas inintéressant du tout. Après, on a les nains. Alors, les nains vont se disputer les mêmes villes que les orques, et les nains sont un peu particuliers dans le sens où, en termes de lore, normalement, on se retrouve avec une race qui est très statique, qui n'aime pas le changement, qui ne veut pas bouger et qui reste fermement ancrée chez elle. Et pour avoir ça en termes de jeu, on se retrouve avec une armée qui est extrêmement efficace, c'est quand même la meilleure armée ou les meilleurs fantassins de base du jeu, sans compter les DLC, et on se retrouve avec un mécanisme qui est très très bien pensé, parce que vraiment tiré du lore, pas tout à fait tel quel, là, mais adapté de manière à ce que ça soit fait intelligemment, on se retrouve avec le mécanisme des rancunes. Les nains, dans le lore de Warhammer, sont extrêmement rancuniers et veulent venger toutes les rancunes qui leur ont été faites, en les notant dans un livre qui s'appelle le Livre des Rancunes. Ce qui se passe, c'est que là, les rancunes ont un impact sur le jeu. Et donc, le joueur nain va bien voir la liste des rancunes qui vont lui être faites. Dès qu'il va perdre une bataille, il va y avoir une rancune. Dès qu'il va perdre une ville, il va y avoir une rancune. Il se fait piller, il y a une rancune, et ainsi de suite. On se retrouve vite avec une certaine accumulation si on veut aller trop vite. Donc, on va devoir jouer comme un bulldozer en faisant de notre nation une sorte de bunker impénétrable avec des grosses armées, mais qui va devoir avancer petit à petit pour sécuriser, pour éviter de cumuler les malus. Ce qui colle relativement bien. Donc les nains sont une race qui, d'un point de vue du jeu, vont pouvoir avoir un fort impact beaucoup plus tard dans le jeu que les autres races. Et comme ils sont juste à côté des orques, ça permet d'avoir un début assez difficile pour les nains et pour les orques de réussir à se lancer sans se faire bulldozer directement. C'est plutôt pas mal et plutôt bien pensé là aussi. Je pourrais parler des DLC. Donc on a le chaos qui permet d'avoir des peut-être les meilleures armées de tout le jeu, beaucoup plus compliquées à jouer, impossible d'avoir des villes, l'armée porte ses propres bâtiments, et si l'armée se fait décimer, il faut tout reconstruire. Ce qui veut dire que perdre une armée quand on joue le chaos, c'est des fois perdre carrément la partie quand on est beaucoup trop tard dans le jeu. Je parlais très vite aussi des elfes sylvains, qui sont peut-être un petit peu plus particuliers en termes de gameplay. Leur but à eux, ça va être de conquérir suffisamment de villes pour avoir une ressource. Et ces villes vont lui donner un de cette ressource. Et une fois qu'il atteint un certain montant, il gagne la partie. Les elfes sylvains sont un petit peu particuliers en termes de gameplay, dans le sens où ils vont pouvoir avoir ou beaucoup d'unités de corps à corps assez puissantes, ou beaucoup d'archers, qui sont très spécialisés là-dedans. Mais bon, il va falloir apprendre à fuir tout en tirant, qui est un peu la spécificité de l'armée, ou jouer tout ce qui est homme-arbre, naïade, permettre d'avoir une armée plus axée sur le corps à corps, mais demandant un peu plus de talent de stratège, même si là on est plus dans la tactique que la stratégie, me diront les plus pinailleurs. Chaque race a ici ses propres objectifs, on se retrouve avec quelque chose d'un peu particulier où la confrontation se fait par rapport à quelques objectifs sur la liste, notamment le nombre de villes. Sur Total War Warhammer 2, que je vais commencer directement à expliquer, toutes les races ont le même objectif. C'est-à-dire que c'est une course entre toutes les races pour prendre le contrôle du fameux vortex des hauts elfes en Ultion. Donc on se retrouve sur l'autre côté de l'océan, là où Total War Warhammer 1 se déroule dans le vieux monde, ce qui correspond à peu près à l'Europe, avec un petit bout de Russie, on va dire. La partie dans laquelle est censé se dérouler Total War Warhammer 2 correspondrait dans notre monde aux Amériques, que ce soit du nord, du sud ou central, ainsi que à l'Afrique. Et bien sûr, Ultuan, qui correspondrait à peu près à l'emplacement le plus communément admis pour l'Atlantide. Donc là, on va commencer aussi avec quatre races, qui sont sensiblement différentes des races du 1, et les mécaniques de jeu vont être beaucoup plus adaptées à ces races-là qu'elles n'ont pu être dans le 1. Dans le 1, on a quand même des mécaniques qui sont assez polissées, avec des différences qui sont beaucoup moins marquées. Le 2 a gagné en confiance et en maturité et se permet d'exploiter plus de mécaniques pour aller beaucoup plus loin sur chaque race. L'armée qui va me servir d'étalon pour tout le jeu se trouve être les hauts elfes. Alors les hauts elfes, ils ont une armée plutôt moyenne dans le jeu, elle n'est pas mauvaise malgré tout, hein. Il faut comprendre que c'est un petit moyen plus à peu près qu'on a. Les hauts elfes ont quand même une spécificité un peu particulière, c'est qu'ils vont avoir des villes particulières. Les quatre portes. Les portes sont les seules batailles du jeu de siège où vous n'aurez droit à aucun équipement de siège. Ce sont des batailles particulières, plus compliquées que la moyenne, où vous aurez beaucoup plus de pertes. Les joueurs elfes peuvent commencer à les avoir assez tôt, ce qui leur donne un petit avantage et leur permet de ne pas être trop emmerdés chez eux. Au-delà de ça, leur spécificité de race est de permettre de modifier la politique entre les autres races et leur permet donc de déclencher des guerres à distance en modifiant les modificateurs entre les différentes factions. Ce qui est particulièrement pratique quand vous voulez détruire une faction jouée par ordinateur en utilisant une autre faction jouée par ordinateur. En termes de lore, les elfes sont censés être une horreur, tellement ils sont hautains, tellement ils considèrent que toutes les autres races sont des pauvres merdes, et rien ne se ressent ici. C'est la race étalon qui n'a pas vraiment de désavantages, ses héros sont extrêmement efficaces. Bref, pas grand-chose d'autre à en dire, si ce n'est que c'est une race qui n'est pas compliquée à jouer. Si vous voulez commencer, essayez celle-ci. Je vais continuer à monter crescendo dans la difficulté pour jouer en parlant des hommes lézards. Alors les hommes lézards sont peut-être la meilleure armée du 2, l'armée la plus efficace. Il faut comprendre que la moindre de leurs unités est quand même loin d'être dégueulasse. Par contre, son entretien coûte relativement cher et va baisser par rapport à toutes les technologies qu'on va pouvoir débloquer beaucoup plus loin dans le jeu. Donc c'est une armée qui est plutôt compliquée à lancer et il va falloir pour ça être capable de durer suffisamment longtemps. Malgré tout, il va falloir penser à bien prévoir ses déplacements car les hommes lézards se jouent dans la jungle et les temps de déplacement entre les villes sont plutôt longs comparés au reste de la carte. Donc, il va falloir apprendre à jouer avec un petit peu d'isolation en faisant en sorte que vos villes ne soient pas trop loin d'une armée qu'il pourrait y avoir. Comme l'armée, malgré tout, coûte assez cher à entretenir, c'est pas l'armée qui va le crouler sous le plus d'armées en déplacement. Donc, apprenez à ne pas être trop agressif pour jouer avec et ça peut très très bien se passer. Une fois qu'on a fini ces deux armées-là, on va passer aux armées vraiment spécifiques du 2. Je vais enchaîner avec les elfes noirs, qui sont pas forcément les plus compliqués par rapport aux skaven qui vont suivre, mais qui demandent déjà un peu plus de doigté. Les elfes noirs ont déjà un premier gros désavantage, c'est qu'ils sont au nord. Et au nord, il y a la corruption du chaos, qui va plus ou moins détruire l'ordre social qui existe sur vos cités, et va aussi également avoir un petit bémol, c'est que les incursions du chaos vont être plus fréquentes. Quand on sait que l'armée du chaos est l'armée la plus efficace de tout le jeu, ça donne une idée de ce qui tombe sur la gueule de temps en temps. Rajoutez à cela que le moindre de vos généraux avec l'armée qui le suit a une petite note de loyauté qui peut descendre au fur et à mesure du jeu, et il peut faire sécession avec l'armée que vous lui avez gentiment payée, et ça vous donne une petite idée de la fourberie qui vous attend pour réussir à avoir un empire qui ressemble à quelque chose. Rajoutez à cela la gestion des esclaves qui vont avoir tendance à essayer de déstabiliser votre empire, mais vont vous rajouter de l'argent et permettre d'être sacrifié pour avoir des rituels. Et vous avez une gestion encore un peu plus hasardeuse de la sécurité de vos villes et surtout de la sécurité de votre empire. On se rapproche donc là pas mal du lore où tous les elfes noirs sont fourbes et ne se font absolument pas confiance entre eux. Rajoutez à cela que comme vous n'allez pas pouvoir être vraiment expansionniste à cause des esclaves qui vont réduire la pérennité de votre empire, et vous vous retrouvez obligé de jouer l'armée telle qu'elle se rapproche du lore, c'est-à-dire en effectuant des raids. Les elfes noirs bénéficient en effet d'une unité exclusive maritime. Toutes les autres races ne peuvent avoir que leurs armées sur l'eau. Les elfes noirs peuvent avoir l'arche noire, qui ne peut être créée qu'en sacrifiant suffisamment d'esclaves. L'arche noire permet d'offrir à des armées sur terre un soutien via une sorte de, on va dire, de catapulte en fait, qui va attaquer à distance et donner des attaques bonus pendant une bataille, et de permettre à des armées à distance de régénérer leurs troupes et de pouvoir enrôler de nouvelles troupes qui sont produites par l'arche noire. Chaque arche noire est une petite ville en elle-même et permet à vos armées d'opérer loin de chez vous. C'est pour ça que même si la race n'est pas expansionniste et n'a pas vraiment ce qu'il faut pour l'être, elle peut agir très loin à distance et à maintenir ainsi son économie, parce que sa stabilité ne sera pas assurée sinon. Et enfin, la dernière race, les Skaven. Les immondes hommes-rats sont une véritable purge dans toutes les versions qu'on a eues sur le jeu de plateau. Il faut comprendre que n'importe quelle version des Skaven les a vus comme étant complètement pétés dans tous les sens, avec des unités capables de semer la mort et la dévastation pour pas trop cher. Et là, c'est pas tout à fait ça. Autant certaines unités sont plutôt efficaces sur un champ de bataille, malgré tout, l'armée Skaven, elle n'est pas extrêmement facile à jouer. Réussir à avoir un semblant d'empire qui tienne un petit peu la route devient très compliqué, et c'est vraiment la race de tout le jeu qui demande le plus de compétences en gestion profonde. La nourriture est une ressource qui n'existe que pour cette race, qui va être dépensée pour tout et n'importe quoi. Assurer un semblant de stabilité qui va être dépensé obligatoirement pendant les batailles pour réussir à invoquer les Skaven qui vont sortir de terre et vous permettre de surprendre un tant soit peu l'ennemi en faisant en sorte que le reste ne se fasse pas trop massacrer, c'est extrêmement compliqué. Il va vous falloir créer beaucoup plus d'armées que les autres races parce que la moindre de vos unités n'est pas extrêmement efficace comparée aux autres. Et donc vous allez jouer sur le nombre. Le vrai problème, c'est que pour réussir à avoir du nombre, il faut réussir à maintenir un empire, voire à l'étendre. Ce qui est très très compliqué en termes de gestion. C'est vraiment la race qui, à mes yeux, a été la plus compliquée à jouer. Et qui, bien sûr, sera la plus dévalorisée quand le PC va le jouer. Ça se voit très vite, en fait. Comme chacun a le même objectif, il va falloir remplir 5 rituels. Chaque rituel va demander à votre race d'accumuler suffisamment de ressources, des ressources spécifiques qui ne servent qu'à ça, à rien d'autre, hein, que vous pouvez avoir en prenant des villes et en tenant des villes particulières qui vous donnent ces ressources bonus. Vous allez avoir 5 rituels à faire, chacun de ces rituels marque une étape. Pendant un rituel, c'est là où c'est les moments les plus compliqués, on se retrouve à devoir défendre 3 villes pendant 10 tours. Pendant ce temps-là, votre empire gagne des bonus. Mais ces 3 villes-là doivent être tenues pendant 10 tours contre des troupes que peuvent envoyer n'importe lequel de vos adversaires, des armées bonus levées pour l'occasion par chacun des autres protagonistes qui est sur la course à l'objectif, et chaque rituel que vous faites va attirer des troupes du chaos qui vont essayer de vous empêcher de faire également ce rituel-là. Donc, vous pouvez potentiellement vous faire emmerder par plus de choses que normalement dans le jeu. Et quand on joue les Skaven, et on se rend compte que même le PC a vraiment beaucoup de mal à dépasser le tout premier rituel. Et ça m'arrivait plutôt fréquemment de voir les pauvres Skaven se retrouver bloqués au tout premier rituel alors que toutes les autres races en étaient déjà au quatrième. Si vous aimez les défis, les Skaven ont de quoi vous satisfaire. D'un point de vue du lore, effectivement, on se rapproche de l'aspect chaotique, bordélique à souhait de cette race où la vie n'a pas beaucoup d'importance. Par contre, peut-être qu'il aurait été plutôt sympa que ce ne soit pas aussi compliqué. Que dire de plus? Maintenant, on va parler de Mortal Empire. Mortal Empire, en gros, c'est la fusion de Total War Warhammer 1 et Warhammer 2, qui permet de jouer à l'intégralité de tout ce qui a été proposé, c'est-à-dire l'intégralité du vieux monde, l'intégralité de la carte connue qui existait dans Warhammer, avec toutes les races quasiment connues, hormis les ogres, qui ont mystérieusement disparu, comme personne ne les aimait, c'est pas vraiment étonnant, mais ça permet de faire de bien belles choses. L'échelle de la carte a été un petit peu revue à la baisse pour que tout puisse rentrer, mais ça promet quand même un joyeux bordel sur lequel vous allez pouvoir vous éclater pendant un petit moment. Je finirai par dire que le jeu est complètement faisable en coopération ou l'un contre l'autre si vous jouez à plusieurs. Ce qu'il faut comprendre, si vous jouez en coopération, vous pourrez prendre le contrôle d'une partie de l'armée de votre ami pendant que vous jouez les batailles. Alors que si vous jouez l'un contre l'autre, vous allez pouvoir jouer l'armée adverse à chaque bataille. Donc, faites-vous plaisir, vous pouvez jouer l'un contre l'autre ou l'un avec l'autre. Et c'est plutôt pas mal pour un jeu stratégie. Malgré tout, ce qui fait que la franchise Total War Warhammer ne sont pas que des bons jeux Total War, mais également des bons jeux Warhammer, et leur respect de l'univers. Ils ont été extrêmement respectueux de cet univers qui pourtant est très riche, alors que Game Workshop ne l'a lui-même pas respecté. L'univers de Warhammer n'existe plus si vous n'êtes pas au courant. Il faut maintenant s'intéresser à Age of Sigmar, où ils ont détruit un peu tout ce qu'ils avaient fait pour vendre des nouvelles figurines. La loi du marketing est passée très très durement dans les jeux Game Workshop ces dernières années, même si j'exagère un peu, ça fait un peu plus de 10 ans que c'est comme ça, et donc Warhammer n'y a pas survécu. Une communauté de passionnés continue à faire vivre Warhammer via une version neuve des règles, et je vous conseille vivement d'y jeter un œil, c'est relativement intéressant. Ça lisse pas tous les problèmes qu'ont pu connaître le jeu, mais malgré tout, tout y est, le lore est là, les unités sont là, le système de jeu est là et a été amélioré sur beaucoup d'aspects malgré tout. Et je vous conseille d'y jeter un œil si malgré tout, comme moi, vous êtes un peu nostalgique et avez grandi avec tout ça. Si pour vous aussi, 25 ans d'histoire, d'historique, de personnages, d'univers, tout ça sacrifié sur l'autel du marketing, ça vous rend fou. Eh ben, c'est peut-être l'un des derniers jeux Warhammer qu'on aura, et malgré tout, il est très bon, donc profitons-en, et puis profitons un petit peu de ce que Game Workshop ne fera peut-être plus jamais, un univers.